Le MAG, le magazine d'information de Montpellier Méditerranée Métropole.
Bienvenue dans la version sonore du MAG, le magazine d'information de la métropole, numéro 8, septembre 2015.
À la une rame de tramway colorée traversant un champ de vignes pour illustrer nos pages actualité. Montpellier s'engage pour le climat.
À retrouver aussi notre supplément rentrée, la métropole à vos côtés.
Au sommaire de ce MAG numéro 8, l'édito de Philippe Sorel, le président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de la ville de Montpellier.
Dans l'actu, Montpellier s'engage pour le climat.
Décision.
Commune, vendange municipale à Fabrègues, culture urbaine à Clapiers, Aldébaran aiguise l'essence à Castries, la voix des citoyens à Juvignac, un petit bio à déguster à Bayargues.
Grand angle, cave coopérative, identité en bouteille.
En action. Lutte contre les inondations à l'abri des crues, transport à la demande, trajet adapté aux usagers, culture, priorité aux scolaires.
Rencontre, Pascal Arnoux, l'informatique en solidaire.
Pitchoun, le grand écran des petits.
En images, Moed Altrade, entrepreneur, président du MHR.
Languedoc, dès la maternelle, j'apprends l'occitan.
En vadrouille, mosaïque du Grand Pic Saint-Loup.
Rendez-vous.
Forum.
L'édito de Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de la ville de Montpellier.
La métropole à vos côtés. Pour bien commencer votre rentrée, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir la multitude de services offerts par Montpellier Méditerranée Métropole. Dans la métropole à vos côtés, le supplément du MAG de septembre, vous ferez mieux connaissance avec les agents des établissements de la collectivité et tous les services publics de la métropole qui améliorent votre quotidien. En cette rentrée, nous avons également en ligne de mire une échéance importante pour notre planète, COP21. Cette conférence des Nations Unies, qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre, doit déboucher sur un accord universel sur le climat, dans l'objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés Celsius. Montpellier Méditerranée Métropole s'associe à cet événement international crucial et poursuit son engagement pour le climat. Nous mettrons en valeur nos actions lors de la semaine de la mobilité et des journées du patrimoine. Nous serons également les 25 et 26 septembre aux côtés de France Nature Environnement à Montpellier pour Refaisons le climat. Le 27 septembre au village festif des alternatives Alternhabitat, nous sommes toutes et tous acteurs face au changement climatique. Chacun participe à sa manière à la dynamique de la COP21. Montpellier Méditerranée Métropole vous invite à le faire savoir sur montpellierpourleclimat.fr. Mettez en lumière vos initiatives, propositions et idées pour le territoire. Le rendez-vous de la rentrée. Depuis 35 ans, la rentrée est synonyme d'Antigone des associations à Montpellier. Dimanche 13 septembre, je vous y donne rendez-vous avec les élus de la métropole et de la ville. Cette manifestation phare rassemble 1200 associations, mais aussi Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier. Ces deux collectivités à votre service présenteront pour la première année leur mission et équipement public sous la même bannière, place de Thessalie. COP21 et les questions liées à l'environnement seront bien sûr à l'honneur, tout comme différentes thématiques, proximité et solidarité, attractivité, sport et loisirs, citoyenneté. Nous répondrons à toutes vos questions du quotidien. Bonne rentrée.
Vous avez la parole. Montpellier Méditerranée Métropole met à votre disposition une boîte à idées en ligne sur montpellier3m.fr ou sur nousphere.com/montpellier3m. Chaque mois, nous publions 2 de vos propositions.
Et si la métropole de Montpellier incitait, voire subventionnait, l'installation par les habitants de récupérateurs d'eau de pluie pour arroser les jardins, proposition de Mylène.
Réponse, les récupérateurs d'eau de pluie sont une bonne façon d'économiser l'eau potable. Toutefois, le potentiel de récupération est faible dans les villes méditerranéennes. C'est pourquoi la métropole préfère se concentrer sur d'autres actions. Réduction de la consommation dans les bâtiments publics et espaces verts, défis éco-école, création d'un espace info-eau, accompagnement des copropriétés dans leur consommation, distribution de kits d'économie d'eau.
Autre proposition, celle de Marie-Hélène, afin de mieux sensibiliser le grand public, et ce au travers des plus jeunes, est-il possible d'organiser une visite du centre de tri ?
La réponse, en 2014, 33 classes ont visité le centre de tri Déméter. Les particuliers qui en font la demande sont parfois intégrés dans les visites de scolaires. Il suffit d'adresser une demande à gestion déchets au pluriel @montpellier3m.fr. Le transport des élèves est pris en charge par la métropole.
Dans l'actu, Cournon Sec raccordé à la station Gaïa. René Révol, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, délégué à l'eau et à l'assainissement. Régine Hilaire, maire de Cournon Sec. Thierry Bresse, maire de Cournon-Terral. Et Philippe Sorel, le président de la métropole et maire de Montpellier, ont inauguré début juillet la station d'épuration Gaïa, qui traite les eaux usées de Cournon Sec et Cournon-Terral avec une capacité de 15 000 habitants. D'un coût de 3,9 millions d'euros, cette station intercommunale participe à un objectif prioritaire, la préservation des milieux aquatiques sur le bassin versant de l'étang de Thau.
13 septembre, du nouveau à l'Antigone des associations. Pour la première fois, la métropole et la ville de Montpellier présentent un village des services mutualisés place de Thessalie à Antigone, derrière l'hôtel de métropole. Les stands seront répartis en 4 îlots autour de différentes thématiques, proximité et solidarité, téléalarme, CCAS, enfance, TAM, attractivité, musée, salle d'exposition, office de tourisme, sport et loisirs, piscine, carte sport, jeunesse, médiathèque, citoyenneté et environnement, espace vert, eau, déchets. Vous pourrez y récupérer des documentations, vous inscrire aux médiathèques ou faire votre passe métropole. Des élus seront aussi présents au contact des citoyens. Tous les renseignements sont disponibles sur montpellier.fr.
TAM, du nouveau sur la ligne. Depuis début septembre, les voyages entre les quartiers du Pas-du-Loup-Figuerolles et près d'Arennes sont simplifiés. Les lignes de bus 11 et 16 fusionnent au profit de la nouvelle ligne 11, Pas-du-Loup-Tournesy, desservant la gare Saint-Roch. Les arrêts de la ligne 16 ne sont pas modifiés et tous desservis. De son côté, la ligne 32 s'adapte aux horaires des lycéens Villeneuvois pour assurer leur trajet en direction de leur établissement de secteur, le lycée Georges Clémenceau à Montpellier. Les horaires seront renforcés aux heures d'entrée et de sortie. Pour consulter les parcours et les horaires des lignes de bus, rendez-vous sur tam-voyage.com.
31 000, c'est le nombre de visiteurs qui ont vu l'âge d'or de la peinture à Naples, de Ribera à Giordano, au musée Fabre cet été. Cette exposition d'intérêt national parcourt la peinture du XVIIe siècle dans l'une des villes les plus actives d'Europe à travers un panorama de 84 œuvres issues des plus grands musées français et étrangers. À voir encore jusqu'au 11 octobre. Les renseignements sur museefabre.montpellier3m.fr.
Montpellier s'engage pour le climat. Citoyens, associations, entreprises, tous les acteurs du territoire sont appelés à s'engager pour préserver la planète dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris fin novembre. Montpellier Méditerranée Métropole, qui a intégré les enjeux climatiques à sa stratégie de développement depuis des années, se mobilise à travers une série d'événements et une plateforme contributive.
En 1992, le sommet de la Terre de Rio de Janeiro avait marqué le lancement d'un vaste programme mondial de lutte contre les dérèglements climatiques. 23 ans plus tard, la France préside la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015, à la COP21, du 30 novembre au 11 décembre à Paris. Son objectif, entraîner les 195 pays présents à signer un nouvel accord avec pour objectif de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés d'ici 2100.
Au-delà de l'événement diplomatique qui rassemblera près de 50 000 participants, c'est l'occasion pour les territoires français de se mettre en mouvement. Montpellier Méditerranée Métropole s'est doté d'un plan climat autour de 8 orientations stratégiques. L'agroécologie et l'alimentation, dans le cadre de laquelle la métropole signera le 16 octobre à Milan le pacte urbain sur les politiques alimentaires. L'eau, au travers de la régie publique et sa politique d'économie. L'aménagement durable avec le projet Montpellier Métropole Territoire et les innovations de l'écosystème. Les schémas directeurs de la mobilité et des pistes cyclables, la rénovation thermique des logements contre la précarité énergétique, la métropole intelligente favorisant les économies d'énergie, la sensibilisation à la préservation des ressources et de la biodiversité, ainsi qu'un engagement de la métropole à gérer de façon exemplaire son patrimoine. Cet engagement fort lui a permis d'être labellisé « territoire à énergie positive pour la croissance verte » par le ministère de l'écologie. Dès ce mois de septembre, la métropole invite les associations, entreprises et institutions de son territoire à contribuer à l'événement international en faisant connaître leurs initiatives, actions ou événements sur le site montpellierpourleclimat.fr et sur les réseaux sociaux sous le hashtag MontpellierCOP21. Forte de ces contributions, la métropole se rendra à Paris pour porter la voix et l'action du territoire.
Cette mobilisation sera lancée le 13 septembre à l'Antigone des associations, sur les stands de Montpellier Méditerranée Métropole et de diverses associations. Elle se poursuivra avec la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, puis les journées du patrimoine les 19 et 20 septembre, avec des visites d'innovations architecturales, telles que les bâtiments métropolitains à énergie positive. Point d'orgue, le festival Refaisons le climat, de France Nature Environnement au bord du bassin Jacques Cœur, qui proposera le 25 septembre des animations pour les scolaires et le 26 des conférences et débats en présence du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Enfin, le 27 septembre, le village festif Alternatiba rassemblera des citoyens engagés dans des solutions solidaires pour préserver la planète. Et le 12 octobre, le train du climat fera étape en gare de Montpellier.
Vous avez jusqu'à mi-novembre pour participer à ce projet sur montpellierpourleclimat.fr. Des médailles, même en été. L'été, les sportifs ne sont pas tous au repos, bien au contraire. Des Montpelliéraines et Montpelliérains ont même décroché des titres nationaux et internationaux. Le 19 juillet, du côté de Rio de Janeiro, l'équipe de France de volley a remporté la Ligue mondiale. Dans les rangs des Bleus, Julien Linel, Nicolas Le Goff et Franck Laffitte, Montpelliérains, au cours de la saison 2014-2015, ils ont ramené ainsi le premier titre international de l'histoire de l'équipe de France. Autre première mondiale sur ces mêmes terres brésiliennes, la victoire du handballeur du MHB, Alexandre Saïdini, capitaine de l'équipe de France junior, sacré championne du monde le 1er août, suivi de son coéquipier du MHB, Ludovic Fabregas, également champion du monde, mais avec les moins de 19 ans, élu meilleur pivot de la compétition en Russie.
À Moscou, c'est Ismaël Koulibaly du Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo qui est monté sur la troisième marche du Grand Prix Série. Jaber Méziane, cadet du club montpelliérain, a lui aussi décroché le bronze au championnat d'Europe à Strasbourg. Au plan européen, Jérémy Badre du club Aqualove Sauvetage a été sacré champion de sauvetage au Pays de Galles. À l'échelle nationale, c'est la beach volleyeuse Melinda Adlin du MBV et le beach volleyeur romain Di Gian Tommaso du MVUC qui se sont distingués en remportant les championnats de France. Les kayakistes du 3MCKUC, habitués au titre, ont cette année encore répondu présent. L'équipe masculine a été sacrée championne de France de kayak polo et l'équipe féminine vice-championne. Mais toutes deux sont qualifiées pour la quatrième année consécutive en Coupe d'Europe des clubs 2015. Prochain rendez-vous les 12 et 13 septembre à Montpellier pour la Coupe de France. Le 13 août dernier, c'était au tour de Simon Vien, triathlète du Montpellier Triathlon, de signer sa première victoire en Grand Prix FFTS à Embrun.
La grande fête du basket, du 5 au 10 septembre, ils seront tous là. Parker, Batum, Dio, Petrus, Djellabal, Decolo, l'équipe de France de basket jouera le premier tour de l'Eurobasket 2015 à Montpellier. Cet événement majeur du basket européen, soutenu par Montpellier Méditerranée Métropole et la région Languedoc-Roussillon, réunira une grande majorité des meilleurs joueurs du monde. Au total, 15 rencontres entre la France, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine, la Pologne, la Russie et Israël se disputeront à la Parkland Suite Arena. L'enjeu est double pour les coéquipiers de Tony Parker, défendre leur titre de champion d'Europe décroché il y a 2 ans en Slovénie et se qualifier directement pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Plus d'infos sur ps-arena.com.
Grosjean à la tête de l'Open Sud de France. Sébastien Grosjean est le nouveau directeur du tournoi Montpellierin pour l'édition 2016 qui se déroulera du 30 janvier au 7 février à la Park & Suites Arena. L'ancien tennisman français prend la succession de Patrice Dominguez, décédé en avril dernier, qui pendant 5 ans a su installer l'Open Sud de France dans le paysage languedocien avec le soutien de Montpellier Méditerranée Métropole.
I Love Techno, la billetterie est ouverte. I Love Techno aura bien lieu cette année, le 19 décembre, au Parc des Expositions. Les billets seront mis en vente dès le 9 septembre. Nous voulions rester ici à Montpellier, berceau de la musique électronique et carrefour de l'Europe, a expliqué Armel Campagna, l'organisateur du festival, lors de sa venue, fin juin, à Montpellier. Montpellier, Méditerranée Métropole et la mairie de Pérol ont pris toutes les mesures afin d'assurer la sécurité de la manifestation qui a été annulée en décembre dernier en raison d'un avis défavorable de la commission de sécurité. Au parc des expositions, 4 nouvelles issues de secours et des zones d'alarme indépendantes ont été réalisées. Plus d'infos sur idoftechnofrance.fr.
Nouveau look pour la médiathèque Victor Hugo. L'établissement installé au cœur du quartier Le Maçon à Montpellier, qui accueille 95 000 visiteurs par an, a rouvert ses portes depuis le 25 août, après une période de rénovation. 450 000 euros y ont été investis par Montpellier Méditerranée Métropole pour la réhabilitation du bâtiment, la réorganisation des espaces et le renouvellement du mobilier.
La métropole se mobilise en faveur des déplacements doux. Dans le cadre de la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, 2 nouvelles stations de vélo en libre service seront installées aux sorties de la gare Saint-Roch, l'une sur le pont de Latte et l'autre sur le pont de Sète. Une troisième, rue des Deux Ponts, sera légèrement différée pour être mise en service en même temps qu'une Sanisette. Tout au long de cette semaine, Montpellier Méditerranée Métropole met en place des actions en faveur des déplacements doux. Vous pourrez gagner des lots après une chasse au trésor dans les équipements TAM, essayer un vélo électrique sur les rives du Lez ou faire vérifier votre vélo au vieux Biclou Place Zeus. La métropole signera également de nouveaux plans de déplacement d'entreprises, PDE, avec de grandes sociétés, Veolia, O, Schneider, Arcadin, qu'elle invitera ensuite à une table ronde. Les entreprises signataires des PDE s'engagent à prendre en charge au moins 50% des frais de transport en commun de leurs salariés.
Et puis retrouvez tout le programme de la semaine de la mobilité sur montpellier3m.fr.
Les tweets, Chantal Marion, vice-présidente déléguée au développement économique et conseillère municipale de Montpellier, honorée et décorée de l'Ordre national du mérite.
La science à l'honneur, atelier, débat, exposition. La science est en fête du 26 septembre au 19 octobre. Tous les renseignements sur la page facebook.com, fetedelascience.lr.
Université ouverte à tous, l'université du tiers-temps Montpellier débute les inscriptions le 1er septembre. Plus d'infos sur utt-montpellier.fr.
Atelier entretien et conseil sécurité en vélo le 8 septembre à l'agence locale de l'énergie de 18h30 à 20h. C'est aux 2 place Paul Bec. Les renseignements sur ale-montpellier.org.
Écoute, Jalmalve Montpellier organise le 19 septembre une journée de sensibilisation à l'accompagnement des personnes malades ou en deuil. Toutes les infos sur Jalmalve, jalmalve-montpellier.fr.
Du waterpolo, vice-champion de France, le Montpellier Waterpolo jouera le premier tour de la Ligue des Champions du 4 au 6 septembre au Monténégro. Les renseignements sur montpellierwaterpolo.com.
La rubrique décision, agir pour les quartiers prioritaires. Retour sur les conseils de métropole dès lundi 29 juin et mercredi 22 juillet 2015. Décryptage par Catherine Dardet, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée à la politique de la ville.
Au sein de Montpellier Méditerranée Métropole, 12 quartiers, tous situés à Montpellier, ont été identifiés comme prioritaires par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, parce qu'ils subissent un retard de développement par rapport au reste du territoire. La métropole, avec ses partenaires, l'État, la ville de Montpellier, le département de l'Hérault, la région Languedoc-Roussillon, la caisse d'allocation familiale, le CCAS de la ville de Montpellier, Pôle emploi, la caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux, l'agence régionale de santé, le rectorat, le procureur de la République et les chambres consulaires. La métropole donc va au travers du contrat de ville 2015-2020 leur redonner un nouvel élan en matière de logement, d'éducation, d'emploi ou encore de santé. 7 priorités ont été définies pour la future politique de la ville, validée par les conseillers métropolitains et par Myriam El-Khomri, secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. Les actions à mener seront débattues au sein des 12 conseils citoyens créés par la ville de Montpellier et représentant les quartiers concernés. Ces instances autonomes de démocratie participative, composées au total de 320 habitants, tirés au sort ou volontaires, participeront à l'élaboration du contrat de ville de la métropole, au même titre que les autres acteurs locaux, publics, économiques, sociaux, etc. Ainsi, à l'automne prochain, la métropole présentera un plan d'action en mesure de répondre aux problématiques des habitants des quartiers prioritaires. Il y a urgence à renouer la confiance entre les citoyens et les élus afin de réduire les inégalités, d'améliorer les conditions de vie de tous et de changer l'image de nos quartiers. Réparer ces quartiers, c'est aussi réparer la République.
Notez que le prochain conseil de métropole aura lieu le mercredi 30 septembre à 18h. Aménagement Montpellier Métropole Territoire, réflexion engagée. Afin d'améliorer la qualité de vie des habitants et son attractivité, la métropole conçoit un nouveau projet d'aménagement durable pour son territoire baptisé Montpellier Métropole Territoire. Il constituera un socle de référence pour toutes les démarches de planification en cours ou à venir, telles que le schéma de cohérence territoriale, le plan climat air énergie territorial, le plan de déplacement urbain, le plan local de l'habitat et le plan local d'urbanisme intercommunal. À partir d'octobre 2015 et jusqu'à fin 2016, Montpellier Méditerranée Métropole lancera une grande réflexion autour de plusieurs axes comme la préservation et la valorisation du patrimoine agricole et naturel, le développement économique, le renouvellement urbain, les mobilités, l'habitat. Les 31 communes y seront étroitement associées ainsi que les communautés de communes voisines et les habitants.
sport, des enceintes sportives connectées. Montpellier Métropole Méditerranée, premier partenaire de nombreuses équipes de l'élite du sport français, soutient les initiatives innovantes des acteurs économiques du territoire. Dans ce cadre, la start-up montpelliéraine Vogo Sport installera de manière pérenne ses dispositifs de captation et de diffusion d'images au stade Lamosson, au palais des sports René Bougnol, à la piscine olympique Antigone, au complexe Yves du Manoir et à la patinoire Vegapolis. Son application numérique sportive, qui sera opérationnelle au palais des sports René Bougnol dès le début du championnat de France de handball, permet de vivre l'expérience d'un match autrement. Ainsi, les spectateurs équipés de leur smartphone accéderont à des flux vidéo en temps réel et reverront les actions de leur choix à vitesse normale ou au ralenti. Les renseignements sur vogosport.com.
Numérique, French South Digital, la Cap Omega. Cette association issue du regroupement de trois autres organismes constitués d'entreprises du numérique, Nova LR, PixLR et Media Cloud Cluster, est hébergée par la métropole dans la maison du numérique à Cap Omega jusqu'en décembre 2015. Créé en début d'année, French South Digital est devenu un acteur majeur de l'écosystème French Tech et mène de nombreuses actions en faveur du développement des entreprises innovantes et du secteur numérique. À ce titre, la métropole a également décidé de lui attribuer une subvention de 35 000 euros.
250, c'est le nombre de personnes qui participeront désormais aux travaux du Conseil de développement, présidé par Katia Vidic et composé auparavant de 200 membres. Une nouvelle commission thématique a été créée autour du 7e pilier de la métropole, citoyenneté, développement social et égalité des chances, ainsi qu'un poste de vice-président occupé par Lionel Varguel, président et cofondateur de CompuFirst.
500 000 euros, c'est la somme consacrée par Montpellier Méditerranée Métropole au carrefour giratoire à Vendargues, construit par le département de l'Hérault à l'intersection des départementales 610 et 613, dont le coût est estimé à 1,7 million d'euros. Il s'agit de diminuer les risques d'accidents sur le secteur et d'améliorer l'accès au parc d'activités du Salaison de la métropole, accueillant près de 2500 salariés quotidiennement. Suivez en direct les conseils de métropole sur montpellier3m.fr. Fenêtre ouverte sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole. 5 communes pilotes ont commencé à mettre en place le guichet unique qui a vocation à répondre à toutes les demandes des usagers sur un même point d'accueil en mairie. Ce nouveau dispositif de proximité sera généralisé au 1er janvier 2016 sur les 31 communes. Il reçoit déjà un très bon accueil. Ces 5 communes sont Prades-de-Lez, Pérols, Fabrègues, Castries et Montaut.
Trouvez-vous intéressant d'avoir un accueil mairie et métropole dans un seul et même lieu ? À cette question, 97% des habitants sondés par la mairie de Prades-le-Lez ont répondu oui. La question se posait d'autant plus dans cette commune que la maison de proximité, anciennement maison d'agglomération, avait été rendue inutilisable par des inondations à l'automne 2014. Par ailleurs, la conférence des maires s'était prononcée pour la disparition des 10 maisons de proximité au profit des communes, porte d'entrée de la relation aux usagers. En décembre, la métropole lançait donc la mise en place des guichets uniques. Prades-le-Lez, Pérols, Fabrègues, Castries et Montaut ont été les 5 premières communes à les tester. En avril et mai dernier, les communes pilotes ont reçu la totalité des agents des maisons de proximité situées hors Montpellier pour des formations en immersion, explique Jérôme Benoît, directeur général des services de Castries et co-animateur du groupe de travail. Le bilan est très positif, tant auprès des agents formés que des usagers. Des formations théoriques seront également dispensées, notamment sur l'état civil, qui nécessite des connaissances juridiques.
L'habitant de Murviel-les-Montpellier, qui jusque-là devait se rendre à la maison de proximité de Pignan pour rencontrer un agent de la métropole, le trouvera désormais directement à sa mairie. Il pourra gagner encore plus de temps en effectuant ses démarches en ligne. La plateforme de e-service déjà déployée par Montpellier et Méditerranée Métropole sur 12 communes sera en effet étendue à l'ensemble du territoire. Cet outil informatique garantira aux usagers un meilleur suivi de leurs demandes et réclamations. Dans un premier temps, les 27 agents métropolitains continueront de renseigner sur les compétences de la métropole, transport, téléalarme, tri et collecte des déchets, et les agents communaux sur celles des communes, état civil, crèche, école. Progressivement, tous revêtiront la double casquette ville-métropole.
Le redéploiement des personnels se fera effectif constant en fonction de l'activité dans chaque commune. La plus petite, Montaut, 900 habitants, bénéficiera d'un mi-temps. Les 260 000 habitants de Montpellier auront un guichet unique à disposition à l'hôtel de ville et une mise en œuvre progressive de ce dispositif sera envisagée dans les mairies annexes des quartiers en fonction des possibilités logistiques, tant en termes de locaux que de personnel. La maison de proximité historique située dans les locaux de l'hôtel de métropole à Antigone poursuivra son activité au 1er janvier 2016. 2016 sur des missions strictement métropolitaines.
Sur cette page, une photo de la mairie de Prades-le-Lez où depuis 6 mois, les agents de la mairie et de la métropole renseignent les citoyens dans un même lieu en mairie.
Fabregues, vendange municipale. Le domaine de Mirabeau, 185 hectares et 200 mètres carrés de bâti, racheté par la commune en décembre 2013, accueille samedi 12 ou 19 septembre, selon l'avancée du mûrissement du raisin, sa deuxième journée de vendange à l'ancienne. L'occasion de faire partager à la population cette tradition viticole. L'an dernier, la récolte sur cette nouvelle propriété municipale a permis de produire un jus de raisin, un vin rosé, Saint-Zeau, et un vin rouge, Merlot, dont les cuvées spéciales ont été créées au profit de la ville de Fabregues par la cave coopérative Les Terroirs de la Voie Domitienne à Cournonsec. 1000 litres de jus de raisin et de l'huile d'olive du domaine ont été offerts aux enfants du restaurant scolaire. Tous les renseignements sur ville-fabregues.fr.
À Clapier, cultures urbaines, vous pratiquez les sports extrêmes ou admirez le style street art, ne manquez pas le prochain festival Sport Culture Convivialité les 11 et 12 septembre à Clapier. L'association Basique BMX et la municipalité, en partenariat avec la médiathèque Albert Camus de Montpellier, Méditerranée Métropole et Garrigue Session, vous ont concocté un week-end chargé. Au programme, compétition de trottinette, BMX, mountain bike, skate pour tout public à partir de 8 ans, réalisation d'œuvres éphémères sur mobilier urbain, atelier d'initiation au street art, conférences, animations musicales et concerts, entre autres. Inscription sur facebook.com/basique-session ou par téléphone 06 78 68 65 58.
À Castries, Aldébaran aiguise les sens. Il est un lieu unique sur le territoire où l'art contemporain est roi. Baptisé Aldébaran, cette étoile brille au cœur de Castries dans un vaste bâtiment municipal, ex-école communale. En ses murs et en dehors, Valérie Lasselvi et Odile Grenner invitent artistes émergents, expérimentés ou reconnus, à exprimer leurs talents sous toutes leurs formes. De février à juin, nous accueillons un artiste qui s'approprie le lieu, le temps d'une résidence, explique ce duo, As du système D, qui revendique leur liberté de choix et leur prise de risque. En été, nous avons fait vivre pendant 10 ans, jardin public, jardin privé, dans toute la commune, stoppé avec regret en 2012, faute de moyens, mais des projets sont en cours. En septembre et octobre, nous organisons une exposition, puis entre novembre et janvier, cadeau d'artistes, un magasin expérimental d'artistes très attendu pour les fêtes de fin d'année. Association créée en 1989, Aldébaran a fait ses preuves et a su sensibiliser à l'art contemporain un large public. Au cours de chaque manifestation, nous accueillons des scolaires d'une vingtaine de communes alentour qui, pour la plupart, découvrent ce qu'est un artiste vivant et la création contemporaine. Du 25 septembre au 23 octobre, c'est Bertrand Segonzac, un ancien élève des Beaux-Arts de Montpellier, qui installera ses sons, volumes et images à Aldébaran. N'attendez plus pour passer par Castries. Tous les renseignements sur aldébaran34.com.
À Juvignac, la voix des citoyens. 40 Juvignacoises et Juvignacois forment désormais les comités citoyens de la commune. Une initiative de Jean-Luc Savy, maire de Juvignac, et Emmanuel Vigneron, délégué à la démocratie participative. Après appel à candidature, un membre par quartier et par thème a été tiré au sort par le conseil municipal des enfants. Installés depuis le 19 juin, ils sont pour 2 ans la voix des différents quartiers de la commune et participent pleinement à la vie locale. Plus d'infos sur ville-juvignac.fr.
Vendargues, fête du cheval. Cavaliers, meneurs d'attelage et amateurs d'équidés sont attendus à l'espace Cadoule pour célébrer la journée nationale du cheval dimanche 20 septembre. L'association Vendargues Élevage Équitation Camargue, avec le soutien de la ville de Vendargues et de Montpellier Méditerranée Métropole, a programmé de nombreuses animations pour toute la famille. C'est de 11h à 17h30 et l'entrée est libre. Les renseignements sur vendargues.fr.
À Saint-Jean-de-Védas, festin culturel. Les 19 et 20 septembre, l'été se prolonge dans les rues de Saint-Jean-de-Védas. Depuis 7 ans, festin de pierre, le festival des arts de rue Traversier programme des dizaines de spectacles hors les murs, tous plus rafraîchissants et étonnants les uns que les autres. Les enfants s'amuseront devant des musiciens donnant un concert en piscine ou durant les ateliers de cirque. Les adultes seront séduits par la reprise du Roi Lear de Shakespeare ou par une représentation bâtie autour des archives du théâtre de Montpellier. Le site dédié sur internet festin de pierre au pluriel.com.
À Bayargues, un petit biou à déguster. Bordeaux a son cannelé, Aigues-Mortes sa fougasse, 7, sa zézette, bien désormais Bayargue à son petit biou. Ce biscuit est composé de deux sablés fourrés au raisiné, une compote de fruits d'automne cuite dans du jus de raisin réduit. Cette spécialité incarne la culture taurine et viticole de la commune. À l'initiative de la municipalité, en partenariat avec la boulangerie La Mie d'Enfance, les enseignants de l'école maternelle, les parents d'élèves et l'association Céladonie, la création de cette recette poursuit la démarche engagée par la ville pour valoriser son patrimoine. Tous les renseignements sur ville-bayargue.fr.
Redécouvrir l'église à Sussargues. L'église Saint-Martin est un joyau architectural à Sussargues tout récemment rénové. Façades, pare-foudres, vitraux, peintures, horloges. Ce patrimoine historique, composante essentielle de la commune, a connu plusieurs semaines de travaux. L'église Saint-Martin a beaucoup évolué depuis le XIe siècle, époque où elle est mentionnée dans le cartulaire de Gélonne. L'archéologue Alexandrine Garnotel a étudié chaque pierre pour réaliser la chronologie de cet édifice. Une synthèse de ses recherches est remise aux visiteurs. À découvrir ou redécouvrir, notamment à l'occasion des journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre de 14h à 17h. Plus d'infos sur le site de la commune ville-sussargues.fr.
Rendez-vous aux journées du patrimoine. On commence avec Castelnau-le-Lez. Les 19 et 20 septembre, de 14h à 17h, ouverture au public de l'espace culturel Pierre Fournelle, l'église Saint-Jean-Baptiste, le grand parc La Porte, la glacière. Petit jeu d'observation et découverte du centre ancien.
Le 19 septembre à 19h30, du théâtre, vous avez dit patrimoine, par la compagnie Les Tréteaux du Jardinier au jardin de l'espace culturel Pierre Fournelle à Castelnau-le-Lez, tarif 8 euros. Plus d'infos sur castelnau-le-lez.fr.
À Grabels, le 19 septembre, ouverture au public de la nouvelle maison commune, 1 place Jean Jaurès. Les renseignements sur ville-grabels.fr.
À Latte, les 19 et 20 septembre, organisé par les étudiants du Master 2 Valorisation et Médiation des Patrimoines de l'Université Paul Valéry, l'association Acante et le musée Henri Prade, les Journées Européennes du Patrimoine, fêtent leur 8e édition au cœur du site antique de Latara. Plus d'infos sur musée-archeo.montpellier3m.fr.
À Montpellier, les 19 et 20 septembre, 55 lieux incontournables ouverts à la visite, des circuits sur le thème du 21e siècle, des bâtiments économes en énergie, des visites guidées gratuites sur réservation, il faut quand même téléphoner au 04 67 60 60 60, une exposition à l'hôtel de ville, des activités à faire en famille, enfin tout le programme est sur montpellier.fr. Notez qu'au musée Fabre à 10h et 16h, il y aura des visites guidées, art et architecture, le patrimoine du 21e siècle au musée. À 10h, visite guidée adaptée pour public malvoyant, c'est quoi ces rayures? Et 14h, visite guidée en famille, c'est quoi ces rayures? Les informations sur museefabre.fr.
Toujours les 19 et 20 septembre, à Murviel-les-Montpellier, visite guidée du chantier de fouilles archéologiques du Castellas. Plus d'infos sur murviel.fr. À Pignan, aux mêmes dates, salon des années 60 par l'association Plaisir Auto Rétro et Rétro Mécanique de Pignan, salle du bicentenaire, vente et exposition de véhicules anciens et militaires, vide-grenier dans le parc du château le dimanche. Le 19 septembre à Pignan, visite nocturne du village avec l'historien Louis Segondi. Et le 20 septembre à 10h et 11h30, visite guidée avec Cyril Amiro, conseiller municipal sur les monuments du village. Le site de la commune, www.pignan.fr.
À Saint-Georges-d'Orcles, les 19 et 20 septembre, de 9h à 18h, exposition dans l'espace culturel Rabelais sur l'évolution du village, d'après le livre Les Mémoires Saint-Georgiennes. Tous les renseignements sur ville-st-georges-d'Orcles.fr.
Et puis à Villeneuve-les-Maguelones, les 19 et 20 septembre, visite guidée, concert gratuit à la cathédrale de Maguelone. Le 20 septembre à 9h, balade en petit train sur réservation. À 10h30 et midi, visite et dégustation au domaine du chapitre. www.villeneuve-les-maguelones.fr pour plus d'infos.
Grand angle. Cave coopérative, identité en bouteille. Les caves coopératives sont des structures économiques et patrimoniales essentielles du territoire de la métropole. Elles sont le reflet d'un terroir, mais aussi un élément important d'identité communale. Ces dernières années, nombre d'entre elles se sont regroupées. Elles ne sont plus qu'une demi-douzaine dans la métropole, si l'on ajoute à notre série celle de Vendargues et de Saint-Géniès-des-Mourgues, par nécessité ou pour se doter d'outils plus performants. D'une commune à l'autre, l'option stratégique retenue diffère. Mais une réalité est évidente, la mauvaise réputation qui colle au vin de Copé n'a plus de sens. car des efforts considérables ont été entrepris.
Saint-Georges joue la preuve par deux. À Saint-Georges-d'Or, qu'on voit double, à l'image des caveaux, celui du village attenant à la cave se complète avec celui de Celle-Neuf pour deux clientèles différentes. Ce terroir ancien, qui fait même partie des dénominations historiques, présente un large panel de vins capables de répondre à tout type de repas. La dualité se retrouve aussi dans le fait qu'une entité commerciale ne peut pas avoir un nom de terroir. Aussi, pour se mettre en conformité avec les règles européennes, la cave coopérative vient-elle de changer de nom cet été pour devenir la cave du Chevalier Georges, ce qui ne fera que renforcer la réputation de l'AOC Languedoc Saint-Georges d'Or que déjà bien établie. Plus d'infos sur cave-saint-georges.pageperso-orange.fr.
Cournon-Terral et la rencontre des terroirs. La cave de Cournon-Terral, qui a déjà absorbé les coopératives de Montarnaud, Murviel-les-Montpellier et Saint-Jean-de-Védas, a rejoint il y a peu le groupe L'Or Marine, Picpoule de Pinet. Une fusion mûrement réfléchie selon le directeur Cyril Paillon et illustrée par une nouvelle accroche de communication, rencontre des terroirs. Nous avons intégré une logique de groupe. C'est une préservation sur le long terme avec une dynamique plutôt bouteille que vrac. On vinifie toujours à Cournon-Terral. Aujourd'hui, on fait 140 000 hectolitres. Le caveau est flambant neuf et la vente de produits conditionnés atteint 50% bouteilles et bag-in-box. Tous les renseignements sur cave-ormarine.com.
Cournon-Sec demeure inoxydable. À Cournon-Sec, la cave Les Terroirs de la Voie Domitienne ne passe pas inaperçu dans le paysage. Construit en 2006, ce nouvel outil de vinification se distingue de deux façons. Il est éloigné du cœur de la commune et c'est une des rares caves en France sorties de terre tout en inox. Elle est gérée en grande partie par des automates. Bientôt, deux pressoirs seront ajoutés pour traiter les blancs. La production issue du vignoble des adhérents s'élève à 80 000 hectolitres. Ici, le vrac est roi. La vente au caveau n'excède pas 3%.
Montauge ou collectif. La bâtisse à fière allure et date de 1938. La marque Ombrelle des Celliers du Val des Pins rassemble 600 hectares de vignes sur les secteurs de Montaut, Sussargues, Saint-Drézéry, Castries et même Saint-Bosille de Montmel. Pour combler un déficit d'identité face aux voisins du Pic Saint-Loup, les Celliers du Val des Pins, dont le caveau est à Sussargues, s'appuient sur un solide ancrage local pour asseoir sa réputation sur les rosés et les blancs. Même si le négoce reste important, 70%, il y a depuis deux ans une volonté affirmée de rentrer sur le marché de la grande distribution locale et des grossistes. Vous trouverez des renseignements sur valdespins.com.
Pignan garde son âme. Née en 1937, la cave des vignerons de Pignan n'a plus le lustre d'antan, mais elle reste une cathédrale de pierre au centre de la commune, idéalement placée à deux pas du château. La question de la fusion s'est posée. Les adhérents craignaient une perte d'identité et de la vie viticole au village. Ils ont donc remis à plat tout le processus de production, commercialisation et marketing. Une partie de la vinification est externalisée à la cave de 40, celle qui part au négoce. Aujourd'hui, 250 hectares sont exploité. La cave compte une centaine d'adhérents. On a réinvesti dans l'outil de vinification. On vinifie à part nos produits et on valorise au maximum le caveau, commente le président Freddy Cyprès. La cave a mis l'accent sur un réseau de boutiques spécialisées et de cavistes. Plus d'infos sur lesvignerondepignan.com.
Deux questions à Yvon Pellet, maire de Saint-Géniès-des-Mourgues, conseiller délégué pour la promotion des produits agricoles, viticoles, des activités économiques traditionnelles. Yvon Pellet, quelle est la vitalité des caves coopératives du territoire de la métropole ?
Il y a une réelle dynamique. La vente en vrac reste le cœur d'activité pour la plupart d'entre elles, mais elles sont également fières de présenter leurs bouteilles en caveau. Ces dernières années, la collectivité a financé des caveaux et conduit des missions en Chine pour faire connaître les vins de notre territoire. Aujourd'hui, nos caves produisent aux alentours de 280 000 hectolitres par an, mais je souhaiterais qu'il y ait une évolution de l'état d'esprit qui doit être moins cloisonnée. Nous devons davantage travailler ensemble, y compris au sein des collectivités locales, lorsque nous montons des opérations de promotion à destination de l'étranger.
Et quelles sont aujourd'hui leurs perspectives de développement ?
Nous devons rebondir. Dans le cadre du pilier de la métropole et du pôle métropolitain sur le développement touristique, il nous faut miser davantage sur l'œnotourisme. Il constitue un vrai levier de développement. Il y a quelques années, nous avons mis en place une route des vignes. Nous devons la repositionner au plus près des surfaces cultivées et surtout lui donner des connexions avec les territoires voisins. Ceci afin que les visiteurs localisent plus encore les vins du pays de Lunel ou des appellations comme les terrasses du Larzac et bien sur le Pic Saint-Loup. En action, lutte contre les inondations. À l'abri des crues, les épisodes orageux d'août dernier, la crue majeure de la Mosson à l'automne 2014, ont causé d'importants dégâts humains et matériels. En cette période propice aux inondations, retour sur l'action de Montpellier Méditerranée Métropole qui engage un nouveau plan de protection sur la Mosson, mais aussi sur les bons gestes à adopter en cas d'alerte.
Le Lez et ses affluents, principalement la Mosson, sont soumis à des crues survenant à la fin de l'été ou à l'automne, liées à des précipitations très importantes, dites épisodes Cévenol. Pour limiter les dégâts, les communes concernées ont fait réaliser cet été, et jusqu'au 20 septembre, des travaux de désembâclement. Il s'agit d'enlever les arbres et objets qui avaient été emportés l'an passé par les crues, afin de permettre un meilleur écoulement. À Montpellier, la ville a renforcé les enrochements sur la rive droite du Lez, au niveau de la rue de la Draie, afin de protéger les berges pour un montant de 80 000 euros. La métropole contribue à ces travaux d'un coût total de 673 000 euros. Toutefois, des aménagements hydrauliques plus lourds s'avèrent nécessaires. Lors des crues de 2014, ils ont montré leur efficacité sur le Lez et rappelé l'urgence de traiter la Mosson. C'est ce que prévoit notamment le programme d'action de prévention des inondations PAPI 2, qui couvre des secteurs non traité par le PAPI 1, 48 millions d'euros sur 2007-2014, sur le bassin versant Lez-Mosson étant palavacien.
La métropole a un savoir-faire reconnu dans ce domaine après avoir mené un chantier qui a mis en sécurité 18 000 habitants, explique Jackie Galabrin-Boulbe, vice-présidente déléguée à la prévention des risques majeurs. Le PAPI 2, 13,7 millions d'euros sur la période 2015-2020, vient d'être validé par l'État, qu'il financera à hauteur de 40%. À Latte et Villeneuve-les-Maglone, il s'agira de conforter ou de déplacer des digues et de créer un chenal d'évacuation des crues du Rieux-Coulon et du Lantissargue vers l'étang de l'Arnais. À Fabrègues, des digues seront redimensionnées afin de protéger les quartiers de la Plantade et des Campanelles d'une crue centennale du Coulazou. Les récents drames ont rappelé l'importance de la diffusion d'une culture du risque. Responsables de la sécurité civile de leurs concitoyens, les 31 communes de la métropole sont abonnées aux prévisions et à l'assistance de gestion de crise de Prédict Service via la métropole. Montpellier, Grabelle et Juvignac proposent également aux citoyens de s'abonner gratuitement à un système d'alerte par téléphone très utile pour avoir des informations de proximité en temps réel. On aperçoit sur cette page les berges de la Mosson à Juvignac nettoyées pour un meilleur écoulement des eaux.
Voici les bons gestes à adopter en cas d'alerte aux inondations. Tout d'abord, déplacez vos véhicules en zone hors d'eau et puis surélevez ou déplacez à l'étage vos appareils électriques et vos archives.
Pendant l'inondation, fermez portes et volets, coupez électricité et gaz, montez à pied dans les étages ou sur le toit.
Écoutez la radio France Bleu pour connaître les consignes. Ne restez pas dans un véhicule et surtout, n'allez pas chercher les enfants à l'école. Le personnel de l'école s'occupe d'eux.
Transport à la demande, trajet adapté aux usagers. Passé d'une seule à 9 lignes en 4 ans, le transport à la demande, TAD, proposé par la métropole, tourne à plein régime. Depuis le 31 août, la nouvelle ligne régulière 42, mise en place par la TAM vers Murviel-les-Montpellier, fonctionne, elle aussi, en TAD, transport à la demande, aux heures creuses.
Lancé à la rentrée 2011 avec la seule ligne 35 au départ de Castelnau-Charles de Gaulle, le service en transport à la demande TAD, impulsé par la métropole et assuré par TAM, s'est considérablement étoffé depuis. Il est aujourd'hui composé de 9 lignes de bus. 4 ont été ajoutées en avril 2012 et autant en janvier 2014 sur des dessertes régulières avec des fiches horaires. Le transport à la demande s'adapte au mieux aux besoins de déplacement des usagers des transports en commun sur des destinations où la fréquentation est moins importante ou régulière. Pour bénéficier du TAD, la procédure est simple. L'usager doit s'inscrire par téléphone au 04 67 22 87 87 ou sur Internet. Tapez tam-voyage-au-pluriel.com et cet usager reçoit une carte d'adhérent avec code d'accès au service de réservation valable pour un an. La course de bus, qui est déclenchée dès qu'un usager appelle pour réserver, emprunte une ligne bien définie tout en s'adaptant en fonction des réservations enregistrées.
Ainsi, seuls certains arrêts de la ligne seront desservis, offrant un gain de temps pour les voyageurs. Notre service de transport à la demande fonctionne parfaitement. Il est même très réactif puisque l'usager peut effectuer une réservation jusqu'à une heure avant son départ. Avec cette souplesse d'utilisation, 8 des 9 lignes ont une fréquentation en constante progression d'une année sur l'autre et le coût d'exploitation station est deux fois moins élevée que pour une ligne régulière, détaille Isabelle Gianel, vice-présidente de la métropole déléguée aux transports et mobilité. Certaines destinations ont même connu une hausse de fréquentation très sensible. C'est ainsi le cas de la ligne 36 qui relie Saint-Dreyzéry et Montaut via Clapiers. Elle est passée de 283 personnes en avril 2012 à 1753 en novembre 2014, soit une hausse de 520%. Sur le territoire métropolitain, chaque commune possède sa ligne de bus et la seule localité qui n'était pas encore desservie par TM, en l'occurrence Murviel et Montpellier, l'est depuis quelques jours pour la plus grande satisfaction d'Isabelle Touzard, la maire, et de ses administrés.
Nous avions quelques liaisons hebdomadaires avec Héro Transport, mais aussi des plages entières et le week-end sans rien. Dès sa prise de fonction, le président de la métropole a tout de suite été attentif pour combler ce manque, tout comme Isabelle Gianel. C'est une question d'égalité entre les communes. La ligne 42 fonctionne depuis le 31 août et bénéficie même d'un arrêt supplémentaire à la Rouvière-Longue. Elle va changer le quotidien des habitants qui auront maintenant une vraie alternative à la voiture. Pour les heures creuses et le week-end, on va fonctionner avec le transport à la demande. Avec pour départ la station Mausson de la ligne 3 de tramway, la ligne régulière vers Murviel et Montpellier bénéficie en outre d'un cadencement plus régulier, qui fait qu'il y a notamment plus de bus le matin entre 6h30 et 9h30, et même vers 7h, une ligne express sans arrêt à Saint-Georges-d'Orque pour que les Murviellois puissent gagner Montpellier plus rapidement.
Vous pouvez réserver votre trajet à la rubrique Resatam TAM sur tam-voyage.com.
Culture, priorité aux scolaires. Chaque année, Montpellier Méditerranée Métropole accueille plus de 300 000 scolaires dans ses équipements. De la maternelle au lycée, des classes de tous niveaux y vont en visite dans le cadre de leurs projets pédagogiques, qu'ils soient artistiques, sportifs ou scientifiques. Une offre éducative foisonnante, gratuite ou à des prix attractifs.
Entre les écoles et la métropole, c'est une longue histoire. Dès la construction des premières médiathèques et piscines, celle-ci avait vocation à accueillir des scolaires. Mettre la culture et le sport à portée de tous a toujours été une des missions importantes de l'agglomération puis de la métropole, explique Bernard Travier, vice-président délégué à la culture. Cette politique passe nécessairement par l'école où l'on touche tous les enfants, quel que soit leur milieu. Les établissements sportifs et culturels de la métropole accueillent en leur sein des enseignants détachés avec qui ils élaborent une offre pédagogique adaptée au programme scolaire sur des domaines variés.
100% d'enfants qui savent nager au moins 30 mètres à la fin du primaire, c'est l'objectif que s'est fixé la métropole en mettant gratuitement à leur disposition ces 13 piscines. Ce taux varie de 50% à 97% selon les établissements. La collectivité poursuit donc ses efforts à destination des enfants des cycles 1, grande section de maternelle, CP et CE1, et 2, CE2, CM1 et CM2, mais aussi certaines classes de collège d'élèves en difficulté, les CLIS. 18 000 enfants ont bénéficié l'an passé de ces sessions de 10 séances de natation. La patinoire Vegapolis a accueilli pour sa part 5 425 élèves pour des séances gratuites d'initiation au patinage.
Ces activités invitent à la découverte du vivant dans une démarche scientifique et de sensibilisation au comportement responsable. L'écolothèque a accueilli 10 500 scolaires l'an passé venus pour des activités gratuites d'éveil à la nature et à l'environnement au milieu des animaux, du potager et des arbres fruitiers. Les visites y sont encadrées ou libres avec possibilité de les préparer en amont en téléchargeant des ressources pédagogiques sur le site. Au planétarium Galilée, 8 500 scolaires ont été accueillis depuis la maternelle jusqu'à l'université, l'établissement participant à la formation des professeurs de physique-chimie. Les séances qui incluent un film et une animation sur le dôme panoramique attirent principalement les primaires autour de thèmes simples comme les saisons et les mouvements des planètes.
L'aquarium Mare Nostrum propose des visites animées ou libres, mais aussi des ateliers de la maternelle au collège. On étudie par exemple la densité et le cycle de l'eau à travers le voyage d'une goutte d'eau. Le musée Fabre est l'établissement qui reçoit le plus de scolaires avec 45 000 entrées l'an passé. Son service éducatif propose 30 visites pour tous les niveaux et dispose de 3 enseignants détachés. L'entrée est gratuite pour les établissements de la métropole. Cette politique d'éducation artistique n'oublie personne. Le musée recevra cette année tous les lycées agricoles de la région. L'Opéra Orchestre de Montpellier-Languedoc-Roussillon propose des concerts éducatifs et des parcours de découverte avec visite de l'opéra et accès aux répétitions. Le public scolaire constitue la plus grande part du public du site archéologique Latara Museri-Prades, avec 8000 élèves accueillis l'an passé pour des visites libres ou guidées gratuites.
Les thèmes sont choisis avec l'enseignant, les hommes préhistoriques, les premiers paysans d'Europe, la condition des enfants dans la société romaine. Le musée propose aussi des ateliers. Enfin, la métropole finance un festival de cinéma jeunes publics. Chaque année, soit 13 000 places gratuites. Cette importante offre scolaire touche aujourd'hui essentiellement des enfants du primaire. C'est pourquoi la métropole veut la développer vers les collèges et lycées. De 11 à 17 ans, il y a un âge charnière où les pratiques culturelles et artistiques peuvent permettre de se réaliser, explique Bernard Travier. Autre objectif, toucher plus d'établissements des quartiers prioritaires fléchés par la politique de la ville afin de favoriser l'accès à la culture pour tous. Plusieurs photos sur ces deux pages. On aperçoit l'un des 18 000 élèves qui ont appris gratuitement à nager l'an passé dans l'une des piscines de la métropole. 45 000 scolaires au musée Fabre, quelques-uns ici pris en photo en 2014. Photo également de séances éducatives au planétarium Galilée et d'ateliers au site archéologique Latara, musée Henri Prade.
Les chemins de la connaissance, un parcours par quatre chemins. Très demandé, la science par quatre chemins propose à une vingtaine de classes un parcours pédagogique dans plusieurs établissements de la métropole. Le planétarium Galilée, l'aquarium Mare Nostrum, le site archéologique Latara, musée Henri Prade et l'écolothèque. Le musée Fabre rejoint cette année le dispositif qui aura pour thème la lumière dans le cadre de l'année internationale de la lumière. Ce thème sera abordé dans ses divers aspects, artistiques, scientifiques ou encore historiques, grâce aux ressources des médiathèques. Au terme de ces visites, les classes se retrouvent pour un marché des connaissances où elles viennent restituer ce qu'elles ont appris aux autres classes.
Avec les bus du savoir, Montpellier Méditerranée Métropole offre aux primaires de son territoire la possibilité de se rendre gratuitement dans ses équipements en transport en commun. Si l'école est située près du tramway, les scolaires bénéficient de tickets gratuits. Sinon, les écoles peuvent demander à disposer d'un des 10 bus du savoir affrétés par la métropole. L'an passé, près de 250 000 écoliers ont bénéficié de ces services, financés à hauteur de 850 000 euros par la métropole.
Les immenses ressources des médiathèques. Les 14 médiathèques reçoivent 40 000 scolaires chaque année pour des visites de découverte et des visites thématiques autour d'un illustrateur, d'un auteur ou de jeux de société. Le plaisir de lire, d'apprendre et de découvrir ensemble est le fil conducteur de ces séances. Les médiathèques sont également partenaires, avec la ville de Montpellier et le rectorat, d'un programme qui fait participer des classes montpelliéraines à l'édition d'un recueil de nouvelles. Enfin, la médiathèque Émile Zola offre aux enseignants un centre de ressources de 71 000 documents où ils peuvent emprunter un titre en 30 exemplaires pour leur classe.
Pour illustrer cet article, une photo du marché des connaissances à l'écolothèque. Rencontre avec Pascal Arnoux, l'informatique en solidaire. Fondateur et président de l'association Montpel Libre, Pascal Arnoux œuvre à la diffusion du logiciel libre. Animé par une vraie philosophie du partage, il a développé des partenariats avec des associations de personnes handicapées, la Maison des Ados et la Fondation Emmaüs notamment, quand l'informatique a aussi le goût des autres.
Cet homme est capable de vous raconter l'histoire des systèmes d'exploitation depuis leur création. À 57 ans, Pascal Arnoux ne fait pas partie de la génération Y, née avec le numérique, mais de la génération X, qui a découvert à l'âge adulte les premiers personal computers, les PC, puis Internet. À l'époque, je travaillais dans la mise en page. J'ai rapidement adhéré au mouvement du logiciel libre, qui émergeait comme alternatif face aux géants Microsoft et Apple, raconte-t-il. Il ne s'agit pas seulement de gratuité. Il véhicule des valeurs de liberté et de partage. Quand on est libriste, on adhère à une communauté d'utilisateurs qui ouvre ses données au lieu de les monétiser. En 2008, il fonde l'association Montpel Libre et organise son premier salon du libre à l'Université de Montpellier. C'est là qu'il travaille comme technicien spécialisé dans le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Installé à Montpellier depuis près de 30 ans, cet amateur de bidouilles informatiques consacre la majeure partie de ses loisirs à sa passion. Seul, sa famille, il est père de deux enfants, le vélo et la cuisine peuvent le détourner de ses ordinateurs.
Bon nombre de personnes ont recours à des logiciels gratuits de retouche photo, de traitement de texte, mais généralement, ils ne vont pas plus loin. Pascal Arnoux, lui, utilise un système d'exploitation libre de type Linux à la place des systèmes livrés par les constructeurs. Il a développé des programmes et peut même assembler un ordinateur à partir de pièces récupérées sur d'autres. Les Africains nous ont montré comment monter un ordi dans un jerrycan. À Emmaüs, Gabi en reconditionna un à partir de deux ou trois autres avant de les revendre 70 à 110 euros sous système d'exploitation Emmabuntu, un genre de Linux. Les membres de son association y vont régulièrement pour accompagner les utilisateurs dans la prise en main du système. Même chose à la Maison des Ados ou auprès d'associations de l'économie sociale et solidaire qui ont recours au logiciel libre pour faire des économies.
L'association anime aussi depuis 9 ans des install parties où les confirmés accompagnent les débutants. Je me souviens de Catherine, une retraitée qui ne connaissait même pas le clic droit. Depuis, elle s'est prise au jeu. Plus récemment, Montpellier Libre a été missionné par la ville de Montpellier pour réaliser des cartoparties afin de recenser les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des associations comme les Amoureux de Candolle, dernièrement, vont collecter les données en ville avant de les transmettre à la vingtaine de libristes qui les rentrent ensuite sur des cartes. Nous ne sommes pas des geeks autistes au fond d'un garage, précise Pascal Arnoux. Pour preuve, il y a un projet, fonder une maison des biens communs. On y trouverait des logiciels libres, mais aussi des vélos ou des outils à partager, bien sûr. Tous les renseignements sur montpel-libre.fr.
Et Pascal Arnoux est en photo ici à l'espace de coworking de la rue de l'École de droit où les membres de l'association se retrouvent régulièrement.
Pichoun, cinéma, le grand écran des petits. Le cinéma Nestor Burma, quartier Calneuve à Montpellier, programme chaque année une cinquantaine de films adaptés au jeune public. Rénovée cet été pour un plus grand confort, cette salle de 100 places offre une programmation de qualité hors des sentiers battus, à voir en famille.
En août dernier, le cinéma a fermé quelques semaines pour être insonorisé et équipé de nouveaux fauteuils de velours rouge plus larges et plus espacés. La salle offre aujourd'hui 100 places confortables, dont 33 au balcon et 3 pour personnes à mobilité réduite. La ville de Montpellier, propriétaire de la salle, a financé ces travaux qui confortent le cinéma Nestor Burma dans sa double mission d'outil culturel de proximité et d'éducation à l'image. Labellisé jeune public et art et essai par le Centre National de la Cinématographie, Nestor Burma se distingue par sa programmation L'écran des enfants qui propose des films de qualité qui ne font pas beaucoup de publicité mais sont remarqués dans des festivals. C'est le cas par exemple d'Adama, programmé en novembre, un film d'animation sur l'histoire d'un jeune Sénégalais qui se retrouve sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, ou encore Des petites casseroles en septembre, une série de 5 courts-métrages de moins de 10 minutes à voir dès 4 ans. Le cinéma Nestor Burma veille en effet à ne pas oublier les tout-petits, dont l'attention est réduite mais l'intérêt tout aussi grand. L'écran des enfants programme aussi des classiques restaurés tels que Le Livre de la Jungle.
Au total, une cinquantaine de films jeunes publics sont programmés chaque année, les après-midi des mercredis, jours de week-end et de vacances scolaires au tarif de 3 euros pour tous. Souvent suivis d'ateliers, de rencontres ou de goûters, les séances sont destinées aux familles, mais aussi aux assistantes maternelles, aux crèches, aux scolaires. Le cinéma Nestor Burma accueille également les enfants souffrant de troubles du comportement lors de ces séances. Cinéma Différence. Le cinéma Nestor Burma a par ailleurs une programmation généraliste qui comprend des films d'animation à grosse production comme cet été Vice Versa, Les Mignons ou Le Petit Prince. De quoi répondre à toutes vos envies de cinéma.
Rendez-vous en septembre comme un poisson dans l'eau. C'est le moment de s'inscrire au cours de natation enfant dans une des 13 piscines de Montpellier Méditerranée Métropole. Toutes en proposent le plus souvent le mercredi après-midi et parfois le soir en semaine. La piscine olympique d'Antigone prendra les inscriptions le mercredi 9 septembre de 18h30 à 20h30. La piscine Neptune de la Mosson du 14 au 19 septembre pour les autres piscines. Retrouvez le détail dans la brochure Piscine saison 2015-2016 sur montpellier3m.fr.
Mercredi 23 septembre, ouverture de saison. Le théâtre La Vista invite son jeune public à partir de 16h30 pour un rendez-vous festif avec des extraits de spectacles, des surprises et la présentation de la saison qui ouvre le 30 septembre avec du théâtre musical pour les tout-petits, 1 à 3 ans. Les adultes pourront poursuivre après 18h30. C'est donc à Montpellier, l'entrée est libre. Pour les informations, vous tapez théâtrelavista.fr.
Et puis le mercredi 30 septembre, spectacle de marionnettes. Toc 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 de la compagnie 1, 2, 3 Soleil, c'est l'histoire de trois marmottes qui, au retour d'une randonnée, perdues dans le brouillard, vont se réfugier dans une maison abandonnée. Spectacle qui s'adresse aux plus petits dès 3 ans à Pérol, médiathèque Jean Giono à 16h et puis également le 3 octobre à 17h à la médiathèque Françoise Giroux à Castries. Toutes les infos sur médiathèque.montpellier3m.fr. L'entrée est libre sur inscription. Nos pages en images avec Moed Altrad, le président du groupe Altrad, écrivain et président du Montpellier Hero Rugby. Il est né en 1955 en Syrie.
Un type qui a besoin d'être utile. Quand il naît dans une tribu bédouine du désert syrien, l'état civil n'existe pas. C'est par recoupement que Moed Altrad estime son âge à 60 ans. Destiné à être berger, le jeune Moed a d'autres projets et parvient à aller étudier à Raqqa, la ville la plus proche. Brillant élève, il décroche une bourse d'études pour la France à l'orée des années 70. Il étudie d'abord à Montpellier, puis à Paris, jusqu'à un doctorat en informatique. En 1985, il rachète sa première entreprise, un fabricant d'échafaudages en faillite à Florensac. 30 ans plus tard, le groupe Altrad est numéro 1 mondial du BTP avec 17 000 salariés, plus d'1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires et un siège social toujours implanté à Montpellier. Passionné de sport, ce grand patron est depuis 2011 le président du Montpellier Hérault Rugby. Père de 5 enfants, il mène en parallèle une carrière d'écrivain avec 4 romans à son actif. Insatiable, il se définit lui-même comme un type qui a besoin d'être utile. Un sentiment qui le conduit à soutenir une trentaine d'associations et à partager son parcours avec des collégiens et lycéens montpelliérains. Quand je parle aux élèves de mon histoire, je vois des étoiles dans leurs yeux. Ces mêmes étoiles qui l'animaient déjà lorsqu'il était enfant.
Moued Altrad est en photo ici lors de la remise du prix mondial de l'entrepreneur en juin dernier. Si c'est lui qui l'a décroché, il déclare « ce n'est pas moi qui l'ai gagné, mais la France, ce merveilleux pays ».
Autre cliché, il est au milieu de son équipe de rugby.
Chaque début de saison, je suis de près la préparation estivale de mes joueurs. C'est important d'être à leur côté pour les soutenir, mais aussi pour leur rappeler nos objectifs. Nous avons une équipe beaucoup plus riche et qualitative que la saison dernière, taillée pour s'imposer parmi les 4 premiers du top 14.
Moued Altrad nous entraîne aussi au cœur de Montpellier.
Lorsque je suis arrivé à Montpellier, c'est sur la place de la Comédie que j'ai vu pour la première fois une femme et un homme s'embrasser. Un vrai choc pour moi qui venais d'une famille musulmane traditionnaliste. Depuis de nombreuses années, je suis fidèle à Cork, une boutique de la rue de l'Argenterie où je trouve tous mes costumes. Et puis je vais régulièrement manger au restaurant Les Bains pour ses plats français et son ambiance simple et chaleureuse.
Sur ces pages également une photo du professeur Henri Pujol, professeur de médecine et ancien président de la Ligue contre le cancer.
C'est un ami de longue date, il est natif de Florensac, le village où j'ai fait l'acquisition de ma première entreprise. Et puis je vous propose également sur cette page la couverture de Badawi, mon premier roman qui s'est vendu à 40 000 exemplaires. L'éducation nationale l'a sélectionné pour être étudié dans des classes de français, c'est une fierté.
Le président du MHR a aussi pris la pause chez lui.
C'est sur ce fauteuil, chez moi, que je prends le plus de plaisir à écrire mes romans, principalement la nuit, quand tout est calme. Cet endroit m'aide à réfléchir et à me concentrer.
Moued Altrad qui conclut ses pages.
Mon histoire avec Montpellier est particulière. Cette ville a été mon premier point de chute lorsque je suis arrivé de Syrie. C'est ici que j'ai appris à parler français et découvert ce pays. Cela explique sans doute pourquoi j'y suis toujours autant attaché. L'Angadoc, dès la maternelle, j'apprends l'occitan.
Après la mairale, apprendre l'occitan. La langue d'os est pour apprendre l'éau d'une l'éfance. À l'école publique, ou dans une calendrette, les enfants de la métropole peuvent pratiquer à quelle langue millénaire et antao contribuer à sa diffusion. Rembal passe une immersion linguistique à Bourriba pour bailler le goût d'apprendre les langues à cause la toque de las calendrettes, à que les écoles bilingues, laïques et à gratis respectent les programmes de l'éducation nationale. Traparaissent 13 établissements dans la métropole, tout est à Montpellier. Les parents de nostres escolans cherchent les avantages du bilinguisme à Bourriou, mais també une pédagogie autre que celle de les écoles publiques traditionnelles, sodits Agnio Freis, enseigneur à la calendrette Le Pic à Montpellier, qui accueillait 90 escolans de la petite section Ausse Modus pour la rentrée escolaire. Une immersion totale. Au dintre de las calendrettes, les enfants sont en immersion totale, s'embuguent d'une autre langue et approfitent d'une pédagogie active qui laisse mai de liberté aux enseignants. Pour les enfants, ben mai hésite d'apprendre d'autres langues étrangères et de se faire un raisonnement mathématique qui les but plein à s'accarrer les causes à fortis agno frais. Les joves peuvent puis seguir son escolarité au collège Léon Cordos à Montpellier, mais també dans d'unes établissements publics amb d'options de langue d'or. Le 10 de septembre, la section bilingue française Occita de l'école mairale Ernest Granier à Montpellier a fait sa rentrée. Dans aquella classe, créée fa un an, une trentaine d'escolans s'empaïsent dans la langue, enseignée 12 heures par semaine. L'Académie de Montpellier compte aujourd'hui 12 cursus bilingues et 12 démails du Briran en septembre de 2016. Calendrette vient de calandre, grosse alouette, et aussi apprenti. Abouri ou abouribe, précoce. S'embuga, s'imprégner. Sakara, se mettre en présence, affronter. Toc, but, projet. S'empaïsa dins la langue, faire de la langue son pays.
Il est possible d'apprendre l'occitan dès le plus jeune âge. À l'école publique ou dans une calandretta, une calandrette, les enfants de la métropole ont l'opportunité de pratiquer cette langue millénaire et de contribuer ainsi à sa diffusion. Rien ne vaut une immersion linguistique précoce pour donner goût à l'apprentissage des langues. C'est le leitmotiv des calandrettas. Ces écoles bilingues, laïques et gratuites respectent les programmes de l'éducation nationale. Il existe 3 établissements dans la métropole, tous situés à Montpellier. Les parents de nos élèves recherchent les avantages du bilinguisme précoce, mais aussi une pédagogie différente des écoles publiques traditionnelles, explique Annie Fraisse, enseignante à la calandrette Le Pic à Montpellier, qui a accueilli 90 élèves de la petite section au CM2 lors de la rentrée scolaire. En totale immersion, au sein des calandrettes, les enfants sont en immersion totale au contact d'une autre langue et profitent d'une pédagogie active laissant plus de liberté aux enseignants. Les enfants développent ainsi des facilités pour apprendre d'autres langues étrangères et un raisonnement mathématique qui les incite très tôt à aller au-devant des choses, insiste Annie Fraisse. Les jeunes peuvent ensuite poursuivre leur scolarité au collège Calandretta Léon Cordas à Montpellier, mais aussi dans certains établissements publics offrant des options dédiées à la langue d'oc. Le 2 septembre, la section bilingue français-occitan de l'école maternelle Ernest Granier à Montpellier a fait sa rentrée. Dans cette classe, créée il y a un an, une trentaine d'élèves se familiarisent en douceur avec l'occitan grâce à 12 heures d'enseignement en langue d'oc chaque semaine. L'Académie de Montpellier compte aujourd'hui 12 cursus bilingues et 2 supplémentaires ouvriront en septembre 2016. Plus d'infos sur calandretanovela.fr et sur collegileoncordas.fr. En vadrouille, mosaïque du Grand Pic Saint-Loup. C'est un arrière-pays majestueux et multiforme. Le charme premier du Grand Pic Saint-Loup est son enchevêtrement de décors naturels entre montagnes, vallées, garrigues et plaines viticoles. Une destination idéale pour l'arrière-saison touristique où il est bon de profiter à plein poumon des activités de pleine nature. Un territoire préservé qui peut être abordé par des itinéraires balisés ou la libre découverte.
À première vue, le Grand Pic Saint-Loup se distingue par la rudesse des massifs du Pic Saint-Loup et de l'Ortus et le fond de Seine de la montagne rocailleuse de la Serranne. Ces pointes donnent à la palette du peintre des points d'ancrage. À leurs pieds, on retrouve cette garrigue protectrice qui encercle les villages, mais aussi les vallées de l'Hérault et de son affluent, la Buège, où se perdre en suivant le fil de l'eau est un plaisir vivifiant. Pour compléter le tableau de ce patrimoine exceptionnel, il faut d'un coup de pinceau ajouter les forêts de chênes et de pinèdes, les plateaux calcaires et les plaines agricoles. Plaines dans lesquelles la vigne prend toute sa place au cœur de l'AOC Pic Saint-Loup, où le cépage mémoriel Grenache le dispute aujourd'hui à la Syrah dominante. 2 communes de la Buège sont inscrites au titre des Causses et Cévennes au patrimoine de l'UNESCO. Le Grand Pic Saint-Loup a adhéré à la charte de Fontevraud, ce réseau international des paysages viticoles. Optimisation de la production viticole et valorisation culturelle et touristique vont de pair.
Halle du Vert à Clarette et site préhistorique du Cambous à Viol-en-Laval sont des étapes obligées. À Saint-Jean-de-Buège, le site naturel du roc de Trace-Castel ravira les mordus d'escalade. Les amoureux de vieilles pierres monteront au château communal apprécier les travaux de restauration et de sauvegarde. Ce mois-ci, la maison des consuls, l'ex-musée de la préhistoire, rouvre au Matel. Prise en charge par la communauté de communes depuis 2010, elle s'est métamorphosée à l'issue de sa rénovation en musée d'art et d'archéologie. Les salles voûtées du rez-de-chaussée ont été excavées pour accueillir les plus belles pièces de la collection archéologique. Enfin, le Grand Pic Saint-Loup est un cadre idyllique pour les activités de pleine nature. Randonnée, VTT, canoë, vol à voile. Avis aux amateurs, le fan festival de pleine nature du Grand Pic Saint-Loup se tiendra le samedi 26 septembre à Clarette. Le Grand Pic Saint-Loup qui est en photo ici rassemble une grande variété de paysages et d'activités de loisirs de plein air. Et toutes les infos sur le site www.tourisme-picsaintloup.fr.
Rendez-vous, concert, une saison prometteuse à Victoire 2. Programmation alléchante pour cette nouvelle saison à Victoire 2 avec la venue le vendredi 18 septembre de 2 rappeurs, Demi Portion et Kassem Wapalek. En octobre, c'est Kit Francescoli, électro-folk indie, Aaron, pop-rock ou encore Blick Bassi, World Music. puis la pop énergique de Nak, alias Anna Chédid, en novembre. Avant de terminer l'année 2015 avec Feu, Chatterton et leur rock en version française, un programme qui devrait combler tous les amoureux de musique actuelle. Saison 2015-2016, à découvrir à Saint-Jean-de-Védas. Le téléphone 04 67 47 91 00 ou bien vous tapez victoire2.com.
Un festival, les voix de Maglone, pour vibrer au son et avec les voix du chant choral. Rendez-vous à la 7e édition du festival Les Voix de Maglone. Organisé par les compagnons de Maglone, l'événement se déroule comme à son habitude dans la nef de la cathédrale, un lieu à l'acoustique unique dans lequel évolueront notamment le groupe Hortus Delisarium, l'ensemble de musique médiévale Witiza, Shaky Groove et ses reprises de musique noire américaine et des années 80, l'ensemble vocal Claire Garonne, Avouchiata, Polyphonie et Chant Corse. Ce sera du 19 septembre au 4 octobre à Villeneuve-les-Maglones, dans la cathédrale de Maglone. Plus d'infos sur compagnon au pluriel -de-maglone.org ou par téléphone 04 67 68 09 02.
Jusqu'au 11 octobre, une exposition « L'âge d'or de la peinture à Naples » de Ribera à Giordano, un vaste panorama sur le XVIIe siècle, l'un des plus brillants moments de l'art italien. C'est au musée Fabre de Montpellier, le téléphone 04 67 14 83 00 ou bien vous tapez museefabre.fr. Le tarif 10 euros, c'est 9 euros seulement avec le pass métropole.
Autre exposition jusqu'au 26 octobre, Lucien Pelin, un éclairage de l'archéologie régénérée par l'art contemporain. C'est à Latte, site archéologique Latera, musée Henri Prade. Le renseignement par téléphone 04 67 99 77 20 ou sur internet museearcheo.montpellier3m.fr. Tarif de 2,50 euros à 4 euros, 3 euros avec le pass métropole, accès à l'ensemble du musée.
Samedi 5 septembre, festivité, la fête des associations à Grabels de 9h à 14h. Il y aura aussi l'inauguration de la maison commune à 11h30. C'est à la place Jean Jaurès de Grabels. Téléphone 04 67 10 41 00 ou bien vous tapez ville-grabels.fr.
Les 5 et 6 septembre, le festival international de BD à Fabrègues, à découvrir la 17e édition de cet événement organisé par l'association Jeter l'encre. Ce sera au domaine du golf les 5 et 6 septembre, donc entrée libre. Plus d'infos par téléphone 04 67 85 11 57 et sur internet ville-fabregue.fr.
Du théâtre à Pérol, Le Père Noël est une ordure par les Boulidou. Ce sera samedi 5 à 21h et dimanche 6 septembre à 17h. Notez que les recettes du spectacle seront reversées à l'association La Clé lutte contre la leucémie chez l'enfant. Ce sera donc à la salle Yves Abric de Pérol. Le téléphone 04 67 50 45 00. Le site internet, vous tapez ville-pérol.fr. Le tarif, 10 euros. C'est 8 euros pour les moins de 16 ans.
Terroir avec la fête de la tomate le dimanche 6 septembre au parc municipal Claude Lénard de Clapiers. Ce sera de 9h à 17h, l'entrée est libre.
Du 7 au 18 septembre, une exposition à Castelnau-le-Lez, œuvre sur la lumière, des créations collectives et individuelles par des professeurs artistes dans le cadre de 2015 Année internationale de la lumière. C'est au centre André Malraux de Castelnau-le-Lez, l'entrée est libre.
Du 8 au 26 septembre, une exposition Salon d'automne. Exposition de peinture, de sculpture et d'autres objets avec la participation de l'atelier Vitrail de Pignan, l'association des peintres et sculpteurs de Pignan et Jean-René Dargent, médiathèque Lagarre à Pignan. Du 8 au 26 septembre, entrée libre. Plus d'infos par téléphone 04 67 47 61 69 ou sur médiathèque au pluriel .montpellier3m.fr.
Mercredi 9 septembre du hand avec le MHB contre Chartres pour la première journée du championnat de France de première division. C'est au Palais des Sports Renier Bougnol de Montpellier. Le téléphone 04 99 61 44 55. Vous tapez montpellierhandball.com.
Le jeudi 10 septembre, concert de la Gendarmerie nationale par l'Orchestre d'harmonie de la Garde républicaine, dirigé par François Boulanger et au profit des enfants malades de l'Institut Saint-Pierre et des orphelins de la Gendarmerie. Réservation obligatoire, soirée à l'Opéra Comédie de Montpellier à partir de 20h30. Plus d'infos par téléphone 04 67 60 19 99 ou sur internet concertdelagendarmerie-montpellier.fr. Les 11 et 12 septembre, concert Rockabilly Night Festival. Pendant deux jours, place au Rockabilly, un sous-genre du rock'n'roll des années 50, avec à l'affiche Matt and the PWDucks, The H-Bombs, Shorty Tom and the Longshots, Crazy Cavan, Legacaster ou encore Thibaut and the Beboppers. Rendez-vous au Secret Place à Saint-Jean-de-Védas à partir de 19h pour ce festival les 11 et 12 septembre. Plus d'infos 09 64 00 87 11 sur le site tafproduction.blogspot.fr. Tarif 23 euros pour le vendredi, 27 euros pour le samedi, 45 euros pour le passe de jour.
Du 11 au 13 septembre, revivre une fête locale au Cres, organisée par l'association Los Bandos en partenariat avec la municipalité. Vous pouvez vous renseigner au 04 67 87 48 00 ou bien sur internet, vous tapez ville-lecres.eu. Du 11 au 20 septembre, une exposition de Josie Desjans, découverte des toiles de Josie Desjans, inspirée par la lumière et la beauté des paysages montpelliérains. C'est au château de Montferrier-sur-Lèze. Le téléphone 04 67 59 80 34. Notez que l'entrée est libre. Plus de renseignements sur internet, vous tapez ville-montferrier-sur-lèze.fr.
Du sport, le samedi 12 septembre, du rugby, tout d'abord Montpellier Stade Français pour la quatrième journée de Top 14. C'est à partir de 18h30 à l'Altrad Stadium. Et vous aurez 20% de réduction sur les abonnements avec le pass Métropole. Le même jour, du foot à la Mosson avec la cinquième journée de Ligue 1, Montpellier-Saint-Etienne, tarif de 10 à 50 euros, 4 euros avec le pass Métropole dans les maisons de proximité dans les places disponibles. Et puis toujours le 12 septembre, symphonique, pom-pom-pom-pom avec le pianiste montpelliérain Rémi Jeunier qui interprétera le troisième concerto de Beethoven et la cinquième symphonie du compositeur allemand. Rendez-vous à l'Opéra Comédie à partir de 17h à Montpellier, le site opéra-orchestre-montpellier.fr et le numéro de téléphone 04 67 60 19 99.
Toujours le 12 septembre, anniversaire centenaire de la mairie de Laveyrune. Musique, défilé, dictée, repas du centenaire, course de brouettes, jeux, théâtre, embrasement ou encore exposition. Laveyrune sera donc en fête à partir de 10h. Plus des renseignements sur le site de la ville, vous tapez laveyrune.fr.
Mercredi 16 septembre, du théâtre, le lancement de la saison à HTH, Humain Trop Humain. L'établissement montpelliérain vous donne rendez-vous pour célébrer sa nouvelle saison culturelle. C'est donc à Montpellier, espace Gramont, HTH, à partir de 19h. Plus d'infos sur le site humaintrophumain.fr, par téléphone au 04 67 99 25 00. Entrée libre.
Du 17 au 20 septembre, un concert, Festival Accordéon Pluriel. De nombreux concerts pour la deuxième édition du festival organisé par l'association Montpellier Accordéon, mais aussi des ateliers découvertes, un marché aux puces musicales, une balade comptée et d'autres animations. C'est dans le quartier Celle-Neuve de Montpellier. Le téléphone pour se renseigner 06 52 11 77 67 ou encore vous tapez montpellier-accordéon.fr.
Vendredi 18 septembre, une conférence, l'âge d'or de la peinture à Naples. Le musée Fabre donne une conférence à Saint-Bresse pour présenter sa grande exposition d'été, l'âge d'or de la peinture à Naples, à découvrir jusqu'au 11 octobre. Rendez-vous pour cette conférence donc à la bibliothèque de Saint-Bresse le 18 septembre. L'entrée est libre, plus d'infos sur museefabre.fr et par téléphone 04 67 14 83 16.
Une exposition, une autre, le 18 septembre, la Grande Guerre, découverte de l'exposition Langas de Guerra, l'Occitan et les langues de France dans la Grande Guerre, et conférence de Louis Secondi, auteur de Les Héroletais dans la guerre 14-18. C'est à la salle Lamouroux de Murviel-les-Montpellier. Le téléphone pour vous renseigner 04 67 47 71 74 ou bien vous tapez murviel.fr.
Art vivant du 21 au 26 septembre, Magdalena Montpellier France 2015. Magdalena Project est un réseau international d'échanges dédié au théâtre et aux arts vivants créés par des femmes. 12 spectacles dans différents lieux culturels de Montpellier. Un événement soutenu par la Bulle Bleue, le Théâtre de la Remise et le réseau en scène Languedoc-Roussillon. C'est à Montpellier. Plus d'infos par téléphone 04 67 42 18 61 ou sur labullebleue.fr.
Mardi 22 septembre, médiathèque, rencontre avec Jeannine Redon autour de son nouvel ouvrage « Nouvelle histoire de Montpellier » aux éditions Dumont. C'est à la médiathèque centrale Émile Zola de Montpellier à 18h30. Le téléphone 04 67 34 87 00. L'entrée est libre. Vous pouvez vous renseigner également sur internet. Vous tapez médiathèque au pluriel .montpellier3m.fr.
Mercredi 23 septembre, du football avec Montpellier-Monaco à la Mosson pour la 7e journée de Ligue 1 et du hand Montpellier-Cesson pour la 3e journée du championnat de France de division 1. C'est au Palais des Sports René Bougnol de Montpellier.
Vendredi 25 septembre, du théâtre, Lettre à une inconnue. À son retour d'une excursion de 3 jours dans la montagne, un écrivain célèbre reçoit une lettre d'une inconnue. Une histoire fortement inspirée de la nouvelle du même nom de l'écrivain Stéphane Zweig. C'est au théâtre Jacques Coeur de Latte à 20h30. Le téléphone 04 99 52 95 00. Les tarifs vont de 18 à 35 euros. Vous pouvez vous renseigner sur internet, vous tapez ville-latte.fr/théâtre.
À partir du 25 septembre, exposition Chris Middleton, œuvre d'art en stuc vénitien, vernissage, le vendredi 25 à 18h30. C'est à l'espace culturel Pierre Fournel à Castelnau-le-Lez, entrée libre. Renseignements par téléphone 04 67 14 27 40.
Samedi 26 septembre, festival 2 plus 2 égale 5. De la pop à l'électro, du rock au reggae en passant par le folk et le hip-hop. C'est à la Maison pour tous Léo Lagrange et au théâtre Jean Villard de Montpellier. L'entrée est libre, vous pouvez vous renseigner sur internet, vous tapez festival2+2=5.fr.
Montpellier-Lorient pour la 8e journée de Ligue 1, ce sera le samedi 26 septembre au stade de la Mosson à Montpellier. Et puis le mardi 29 septembre, Mediatek rencontre avec Eric Emmanuel Schmitt pour la sortie de La Nuit de Feu chez Albin Michel. Rendez-vous Mediatek Centrale Émile Zola à Montpellier à partir de 18h30. Entrée libre.
Toutes ces dates et tarifs sont bien sûr sous réserve de modifications.
Et vous retrouvez l'ensemble de ces rendez-vous sur montpellier3m.fr.
Le forum politique de votre magazine, il s'exprime. Conformément au Code général des collectivités locales, le MAG réserve un espace d'expression aux groupes politiques constitués du Conseil de métropole. Groupe majoritaire d'intérêt communal, Max Levita, vice-président en charge des finances. Comment s'adapter à la nouvelle organisation territoriale?
Le gouvernement a communiqué sa décision. Toulouse est capitale de la nouvelle région. Un certain nombre de services régionaux de l'État sont maintenus à Montpellier. La direction des affaires culturelles, la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'agence régionale de la santé, l'ARS, la chambre régionale des comptes, le rectorat. Est-ce le signe d'un symbole fort concernant la nouvelle organisation territoriale? On peut en douter. Après cette décision, que pouvons-nous faire pour conforter Montpellier? Premièrement, la décision de maintenir l'ARS à Montpellier est une bonne décision. À nous d'en tirer le plus grand parti possible et faire de Montpellier une métropole décisive dans le domaine de la santé. Une grande université de médecine, des laboratoires de recherche connus et reconnus, des entreprises performantes, le pôle de compétitivité, la labellisation French Tech. Cet ensemble, si nous arrivons à l'organiser, est prometteur. La métropole s'y emploiera sans abandonner pour autant ses autres points forts. Deuxième point, le lancement du pôle métropolitain a montré une grande inquiétude et une non moins grande attente des élus. Notre position soulignait que nous changeons de monde, que le temps de la concurrence est pour une grande partie fini, que le temps de la solidarité et de la coopération est venu. Toulouse ne deviendra pas une grande métropole européenne sans le soutien de toutes les villes de la région. Montpellier n'atteindra pas ses objectifs sans la coopération des autres institutions. Et il n'est dans l'intérêt de personne de laisser de côté et d'ignorer l'avenir des autres villes. Personne ne doit se sentir délaissé, abandonné, ignoré. C'est un chantier énorme qui s'ouvre devant nous dans un contexte économique particulièrement difficile. Enfin, troisièmement, nous ne sommes pas encore dans un monde nouveau. Les régions de l'ancien monde reposent sur le rapport de force. Et la force, il faudra aller la chercher chez les électeurs. C'est une solution que l'on ne peut écarter. Notre responsabilité première est de défendre Montpellier.
Groupe UMP, Centre et Société Civile, Montpellier au cœur d'une région d'Europe.
Oui, il faut défendre Montpellier. Mais pourquoi et comment? Servir notre territoire, c'est identifier ce dont il a réellement besoin et promouvoir tout ce qui fait sa richesse et sa force. C'est ce travail que l'on attend des élus. Nous ne sommes pas là pour dédoubler la région, mais pour répartir au mieux ses compétences et ses missions. Nous ne pouvons nous satisfaire pleinement des annonces de cet été. La priorité, c'est l'emploi. L'argent qui disparaît dans le gouffre des dépenses publiques doit être investi dans la création d'emplois et de services, dans le soutien au développement économique. Notre activité unique est bien sûr liée aux activités touristiques, notamment celle du littoral, mais elle tient aussi à la santé, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'agriculture et aux technologies de pointe. Dans quelques semaines, notre métropole sera au cœur d'une grande région européenne et tous nos atouts serviront son dynamisme. Il faut maintenant regarder en avant et travailler à ce que nos talents s'exacerbent sur ce nouveau territoire. Le groupe Front National Montpellier fait front, représenté par France Jamais, présidente du groupe des élus Front National au Conseil de métropole de Montpellier. Il me faut porter du respect maintenant.
On vient de me faire Mamamouchi, disait Monsieur Jourdain sous la plume de Molière. Et c'est ainsi que Monsieur Sorel entend justifier sa campagne pour les régionales. Après avoir été élu maire à plein temps, sa ville et sa métropole sont aujourd'hui et pour demain bien loin de ses ambitions personnelles. Électoralement, meilleur que Georges Frêche, faisant mieux que les partis du système dont il est un pur produit, il n'en demeure pas moins qu'il fut et demeure en accord parfait avec la fusion de notre région imposée par son ami Valls. Il est de toutes les campagnes, de toutes les élections, toujours en mouvement mais déconnecté de la réalité. Quand portera-t-il du respect maintenant à Montpellier, sa ville cassée, qui attend toujours d'être réparée, à sa métropole douce et à ses promesses d'hier ? On vient de me faire Mamamouchi, explique-t-il. Faites-moi donc compte de Toulouse. Et puis quoi encore ?